Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Béatrice Leveillé.
Bonjour, bonsoir et bienvenue à Istanbul, la porte de l'Orient. Carrefour de l'Europe s'invite cette semaine sur les rives du Bosphore à l'occasion du séminaire de l'Institut du Bosphore, le think tank de référence pour parler des relations entre la France, l'Union Européenne et la Turquie. L'Union Européenne et la Turquie sont condamnées à s'entendre. Jamais l'Union Européenne n'a eu autant besoin de la Turquie et la Turquie de l'Union Européenne. Une Turquie fragilisée par la guerre en Syrie, par un conflit intérieur avec le PKK dans l'est du pays qui menace de s'étendre. Elle accueille près de 3 millions de réfugiés et demande aujourd'hui un soutien financier conséquent à l'Union européenne. Une Union européenne divisée qui voudrait de son côté reprendre le contrôle de ses frontières. La Turquie et l'Union européenne, un destin lié, c'est le thème de notre débat avec Gülgün Verturan, président du mouvement européen Turquie et membre fondateur de la Fondation du dialogue Sud-Nord-Méditerranée à Bruxelles. Bonjour Gülgün Verturan.
Bonjour.
Pierre Lellouche, vous êtes député de la première circonscription de Paris, ancien ministre. Vous avez enseigné à l'université Galatasaray à Istanbul. Vous êtes président du groupe d'études sur la région du Kurdistan irakien et vous connaissez bien la Turquie aussi. Bonjour.
Bonjour, je suis aussi en charge de la politique étrangère dans mon parti, les Républicains.
Nedim Gürsel, directeur de recherche au CNRS, écrivain, auteur d'une trentaine d'ouvrages et lauréat de nombreux prix, censuré par le régime militaire. Vous êtes encore poursuivi aujourd'hui pour blasphème cette fois par la justice turque pour votre roman Les filles d'Allah. Vous nous direz ce que vous pensez de l'évolution de la société turque ces dernières années. Bonjour.
Bien, bonjour.
Enfin, votre frère est avec nous. Seyfettin Gürsel, vous êtes professeur d'économie à l'université Başakşehir à Istanbul. Merci de nous avoir rejoints, bonjour.
Merci, bonjour aussi.
Parlons tout d'abord de la dégradation de la situation ici en Turquie. Chaos syrien, menaces terroristes, afflux de réfugiés, guerre fratricide entre l'AKP et la confrérie Fethullah Gülen, qui l'a pourtant porté au pouvoir, pression politique sur les journalistes, les avocats, les universitaires. Comment est-ce que vous vivez cette situation, Gülgün Verturan ?
C'est une question bien difficile. Je ne sais comment la répondre. C'est un problème que nous ne pouvons pas résoudre nous-mêmes. Nous ne pouvons le vivre qu'en le critiquant, qu'en disant ce qui pourrait être les alternatives à ce qui se passe. Et j'insiste sur le fait que la Turquie ne devrait pas être seule à essayer de régler tout, qu'il devrait y avoir une ancre qui ne devrait pas divaguer. Et donc, je pense que l'Union européenne pourrait jouer un rôle en ouvrant les chapitres 23 et 24 qui portent sur les libertés, la sécurité, le système judiciaire, etc. Donc, lorsque vous regardez ce qui se déroule en ce moment en Turquie, c'est une dérive vers un régime un peu autoritaire. C'est un régime où vous voyez une Turquie qui se divise en deux et même en plusieurs groupes et des groupes qui n'arrivent plus à se tolérer. Et c'est un coup à la démocratie pluraliste turque et dont nous n'arrivons pas à trouver des solutions faciles.
Après 5 ans d'un conflit d'une violence inouïe à votre porte et 3 millions de réfugiés syriens en Turquie, quel est l'impact sur l'économie turque, Seyfettin Gürsel ?
L'impact, on ne le sait pas très bien. Il y a encore des recherches pas très insuffisantes parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles. Je peux répondre à cette question très rapidement, mais j'aurais aimé que vous me posiez aussi là comment on vit la situation actuelle en Turquie. Si vous le permettez, j'y reviendrai. Mais on sait qu'il y a un peu de surtout d'effets négatifs dans les sud-est, c'est-à-dire où le nombre de réfugiés sont très concentrés par rapport à la population locale, sur le marché du travail. Mais surtout, il apparaît que les Syriens qui travaillent, parce qu'on estime à 200 000, mais ce sont, comme je dis, pas des statistiques officielles, mais des estimations, plutôt, ils ont eu un effet sur le secteur informel. parce qu'ils travaillent d'une façon informelle, illégale, surtout sur les travaux non qualifiés, etc. Mais au niveau national, au niveau de l'économie nationale, il n'y a pas d'effet très sensible. Évidemment, le gouvernement prétend qu'il a dépensé beaucoup d'argent. On ne sait pas les détails des comptes. Il parle de 10 milliards de dollars, d'euros. C'est bien possible, enfin, parce que c'est depuis 4 ans que la Turquie, en fait, vit cette situation. Donc, sur le plan économique, je ne peux pas dire que c'est très important, des effets négatifs. Mais quand vous avez dit que la Turquie demande, en fait, qu'il soit aidé au financement, je crois que c'est tout à fait secondaire par rapport à d'autres enjeux, à d'autres objectifs de la Turquie, particulièrement du gouvernement AKP. Les 6 milliards d'euros, encore, c'est pas sûr. Sur 3 ans, c'est pas beaucoup pour la Turquie.
Puis-je ajouter une toute petite phrase en disant que l'économie turque est en train de se ralentir et cela pose un problème assez important, surtout dans une période où il se peut que les petites et moyennes entreprises seront face à face avec des faillites, avec un problème d'inflation qui est en montée. Et tout cela se rajoute à la crise des émigrés que nous avons en Turquie.
Pierre Lelouch, vous êtes un observateur attentif de la situation, conflit externe, conflit interne. On est loin de la doctrine de l'AKP, qui était zéro problème avec ses voisins. Y a-t-il un risque de voir la Turquie basculer à son tour dans un chaos syrien ?
Il y a un risque que nous soyons tous entraînés dans un chaos syrien, parce que ça fait 5 ans que ça dure. C'est pas prêt de s'arrêter, malgré la récente embellie autour des pourparlers à Genève. La maladie est très profonde. Pourquoi ? Parce que les États de la région ont implosé. Les États que nous avons, nous, Français et Anglais, inventés il y a 100 ans, au moment de la fin de la Première Guerre mondiale, sur les ruines de l'Empire ottoman. La Syrie est atomisée aujourd'hui. L'Irak a explosé en 3 morceaux. Le Liban est très fragile, la Jordanie très fragile.
La Libye.
Sans parler de la Libye et de régions plus lointaines, ou le Yémen. Mais rien que dans la région la plus proche de la Turquie, il y a un vrai problème. La question ne se pose de savoir si à un moment ou un autre il y aura des troupes au sol. Et la dernière fois que la question a été évoquée, il y a une initiative saoudienne pour mettre des troupes au sol avec les Turcs. Mais si vous mettez des Turcs au sol et des avions russes dans le ciel qui sont eux-mêmes abattus par la Turquie, là on rentre dans un scénario épouvantable d'escalade qui est celui des somnambules de 1914 avec la bombe atomique en plus. Donc il faut faire très attention au risque d'escalade de ce conflit qui est pour l'instant une affaire régionale, mais avec des retombées fortes dans toute la région, la Turquie ayant servi de base arrière, faut quand même le dire, beaucoup de milices diverses, d'ailleurs, liées à Al-Qaïda, pas Al-Qaïda, soi-disant modérées ou pas, se replient en arrière vers la Turquie. Il y a eu des transferts d'armes, il y a eu des moyens médicaux, un jeu assez compliqué des services turcs dans cette affaire. Que beaucoup de monde a du mal à apprécier, d'ailleurs. Alors que c'est aussi un pays membre de l'OTAN. Donc tout ça est, très, très, très risqué, très compliqué. Il faut savoir que dans cette guerre, qui au départ était une guerre civile intra-syrienne, on est passé à une guerre régionale, où comme les Américains ont décidé de ne pas s'en occuper, et nous non plus d'ailleurs, les Européens, il se passe que ce sont les puissances régionales qui sont entrées dans le jeu, les Iraniens, via le Hezbollah et les milices chiites qui se battent en Irak, mais également en Syrie, les Turcs sont présents, ils se battent le long de la frontière, les Saoudiens, les Qataris, les Émiriens, bref, tout le monde a sa milice, tout le monde a des armes. Et le résultat, c'est que c'est un véritable chaos. Il y a plusieurs centaines de groupes armés dans tous les sens, avec le risque que vous avez plusieurs guerres dans la guerre. La seule façon claire de comprendre ce qui se passe, c'est que chacun de ces pays déteste son voisin plus que l'État islamique. Les Turcs sont en guerre contre les Kurdes, les Saoudiens sont en guerre contre les Iraniens sont en guerre contre les Sunnites, et l'État islamique, lui, continue. Donc, et c'est pourtant l'État islamique qui nous envoie les terroristes et qui commet les attentats, qui coordonne les attentats. Et c'est cette guerre qui nous envoie les migrants. En tout cas, la partie des migrants qui est syrienne et irakienne, parce que bien d'autres gens se sont joints aux cohortes de réfugiés. Vous avez vu des Nord-Africains, toutes sortes de gens arrivent finalement sur les Balkans et sur l'Allemagne. Il y a de tout. Il y a des Soudanais, des Érythréens, des Nord-Africains, des Albanais, des Kosovars. Et au final, ça fait une situation qui est complètement ingérable. Et qui peut avoir des conséquences gravissimes sur le devenir de l'Europe. C'est pour ça que l'idée à retenir, je crois, et je termine là-dessus, c'est que on peut plus aujourd'hui séparer, sur le plan géostratégique, l'Europe du Moyen-Orient, comme on l'a fait pendant des décennies. L'Europe, c'était un autre contexte, c'était Est-Ouest, tout ça, et les guerres européennes, et puis les guerres orientales, c'était les guerres des Arabes ou des musulmans. Aujourd'hui, les guerres des musulmans se sont devenues les nôtres, malheureusement.
Takmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzına sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan hele güne rezil oldu. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvol. Seni gidip ınlık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü bela. Patlatıyor. Ağzına sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip ındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü bela. Yakalarsam seni gidip kaderin püskül bela. Yakalarsam ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum el aman. Ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum.
Vous êtes écrivain, vous avez été poursuivi à plusieurs reprises par les militaires, puis par le pouvoir islamo-conservateur pour vos écrits. Est-ce que vous avez vu venir cette menace à votre porte d'un mouvement aussi fanatique et violent que Daesh ?
Écoutez, la Turquie traverse une crise, c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi, je crains la dégénération de cette crise en guerre civile, car nous avons assisté, nous assistons aujourd'hui à un véritable conflit armé entre le PKK et les forces de l'ordre. Vous avez très bien situé la situation, mais je reviendrai un peu sur un mot qui a été prononcé au début de cette émission, et qui est l'autorité. Pour parler peut-être un peu de mon dernier roman qui vient de sortir, et qui s'intitule « Le fils du capitaine », et qui est un règlement de compte justement avec l'autorité. Car si on regarde de près l'histoire de la Turquie, on constate que le seul élément de continuité depuis la fin de l'Empire ottoman jusqu'à nos jours, c'est l'autorité. Et par rapport à l'adhésion de la Turquie à l'Europe, on a parlé de dérive autoritaire. Eh bien, nous sommes en ce moment en plein milieu de cette dérive, ce qui explique peut-être aussi la restriction de l'espace des libertés. Et en tant qu'écrivain, j'en ai un peu souffert pour mes livres qui ont été saisis après les coups d'État militaires successifs, celui du 12 mars 1971, et puis après le coup d'État du général Evren en septembre 1980. Et là, pour mon roman « Les filles d'Allah », j'ai été poursuivi, selon l'article 216 du Code pénal turc, pour dénigrement des valeurs religieuses de la population. Alors qu'en principe, dans un pays laïque, le défi de blasphème n'existe pas. Mais j'ajoute tout de suite que j'ai été acquitté, mais au bout d'un procès quand même qui a duré plus d'un an. Donc, depuis ma naissance, j'ai eu comme problème, maintenant avec le recul je peux le dire, donc j'ai eu affaire avec l'autorité sous ses différentes formes. J'avais 9 ans quand le premier coup d'État militaire a eu lieu en 1960, 20 ans le deuxième, une trentaine d'années le troisième. Donc ce sont ces coups d'État militaires successifs qui ont un peu marqué mon itinéraire. Et maintenant nous avons, comme ça a été le cas de mes parents à l'époque kémaliste, encore nous nous affrontons à une autre forme d'autorité, cette fois-ci conservatrice. Nous avons, en la personne de M. Erdogan, le papa, le père de la nation, qui nous dit ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, etc. C'est pour cela qu'il est au centre du récit dans mon dernier roman, qui n'a pas plu à tout le monde en Turquie quand il est paru il y a 2 ans ici.
Et sur Daesh, alors, sur cette violence, sur ce fanatisme, sur cette extrême violence
Écoutez, quand j'ai écrit ce roman, j'ai pas mal travaillé sur l'avènement de l'islam, sur le prophète, sur, disons, le monothéisme qui a été imposé par le glaive, il faut le dire, par le prophète. Alors, je suis un peu familier à cette question. Et j'ai relu récemment Voltaire qui explique tout dans le fanatisme. L'Europe a connu aussi le fanatisme violent. Saint-Barthélemy, c'était pas rien. Et malheureusement, quelques siècles après, en France même, dans les banlieues, on dit c'est la radicalisation de l'islam ou c'est l'islamisation de la radicalisation, je n'en sais rien. Les spécialistes en parlent et je suis le débat avec grand intérêt car je m'intéresse à l'histoire des religions en tant que romancier. Mais je constate qu'il y a donc un élément de continuité dans l'histoire des religions, c'est le fanatisme, on n'arrive pas à l'éviter.
Puis-je simplement ajouter deux phrases? Ce que je vois lorsque je regarde la Turquie d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un façonnement d'une nouvelle Turquie. Et cette nouvelle Turquie semble devenir plus moyen-orientaliste qu'elle ne l'était auparavant. Je vois qu'on essaie de relier le judiciaire à l'exécutif. On essaie de façonner les universités. On essaie qui sont des lieux de libre-échange où on peut dire plutôt ce que l'on veut dire. On fait la même chose avec la presse et je crois que c'est ça qui inquiète aussi beaucoup de gens. Et ce sont des éléments qui donne lieu à ces mouvements Daesh à devenir beaucoup plus forts en Turquie même.
Gülgün Vertoğan, merci. Place maintenant à l'information sur RFI. Nous allons faire une courte pause. Restez à l'écoute de la radio de l'Europe et du monde pour retrouver nos invités sur les rives du Bosphore dans quelques instants.
Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Raskrucia Europei.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Béatrice Leveillé.
Rebonjour, rebonsoir. Carrefour de l'Europe vous convie cette semaine sur les rives du Bosphore. L'Union européenne et la Turquie condamnées à s'entendre. Jamais l'Union européenne n'a eu autant besoin de la Turquie et la Turquie de l'Union européenne. Nous avons débattu de la situation en Turquie dans la première partie de cette émission et nous poursuivons nos discussions avec l'économiste Gülgün Vertüran, présidente du mouvement européen de Turquie, Pierre Lelouch, député de la première circonscription de Paris, ancien ministre, délégué aux affaires internationales de son parti, les Républicains, Nedim Gürsel, directeur de recherche au CNRS, écrivain, et Sefettim Gürsel, professeur d'économie à l'université Beçiktaş à Istanbul. L'Europe est dans une situation difficile, elle est divisée, la crise des migrants a mis à nu l'incapacité des États membres à coopérer pour prendre en charge les réfugiés et contrôler les frontières de l'Union européenne. Est-ce qu'on pouvait imaginer, Pierre Lelouch, une telle fragilité des institutions européennes ?
La réponse est oui, tout simplement parce que Schengen est une invention du temps de paix, si j'ose dire. Dans l'euphorie de la fin de la guerre froide, on s'est fait un petit plaisir, on a supprimé les par confort et par, aussi par idéologie. C'était sympathique de ne plus avoir de frontières entre Européens. C'était il y a 25 ans, dans un autre monde. Et Schengen est fondé sur un système assez simple et révolutionnaire qui consiste à donner les clés de votre maison aux pays qui se trouve aux frontières de l'extérieur, en l'occurrence essentiellement aux Italiens et aux Grecs. Et on leur dit, c'est à vous de contrôler. Et s'il y a des migrants qui rentrent en Grèce, normalement les Grecs doivent les garder. Mais la libre circulation, c'est pour les Européens, pas pour les autres. Ou alors il faut avoir un droit de circuler, donc il faut être légal. Ce système était prévu pour le temps de paix. Sauf qu'il y a 25 ans, on pouvait prévoir, et d'ailleurs j'avais écrit des livres à l'époque pour le démontrer, qu'on serait inévitablement face à des vagues migratoires immenses. À peu près, à partir de maintenant, jusque vers 2050, il y aura des vagues migratoires considérables, venant bien sûr du Moyen-Orient, mais surtout d'Afrique. Car ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est bien sûr les résultats de la guerre en Syrie, en Irak, mais c'est aussi beaucoup d'autres gens qui se greffent à ces cohortes de migrants, qui ne sont pas des réfugiés de guerre, ce sont des migrants économiques qui servent simplement à survivre dans des pays où il n'y a pas d'espoir pour eux. Et donc, on a désarmé les frontières de l'Europe au moment où, inévitablement, nous attendions des flux. On a fait la même chose, d'ailleurs, en matière de défense, puisqu'on a désarmé budgétairement, on a supprimé les armes nucléaires américaines, on a fait baisser les budgets de défense, comme si la guerre allait s'arrêter. Sauf que, comme certains mauvais esprits comme moi le disaient il y a très longtemps, non, il y a des gens qui vont continuer à faire la guerre. Et on a découvert que des gens avaient des programmes nucléaires, etc. Donc, malheureusement, les flux migratoires étaient prévisibles depuis au moins 25 ans. On sait ce qui nous attend de l'autre côté de la Méditerranée. Encore une fois, c'est bien au-delà de la Syrie ou de guerres ponctuelles. On sait, par exemple, que le Sahel représentera 200 millions de personnes dans 30 ans. Ce sont les 5 pays les plus pauvres du monde. Donc vous imaginez le potentiel migratoire à l'intérieur de l'Afrique, bien sûr, mais aussi en direction de l'Europe dans les années qui viennent. Est-ce que Schengen va survivre à ça ? Non. Sauf si on fait ce qui est nécessaire pour que ça marche, c'est-à-dire qu'on met des postes frontières à l'extérieur avec des moyens, des coast guards, mais des militaires aussi, pour surveiller notamment les côtes maritimes de l'Europe. Or, on n'a pas fait ça. On a juste dit libre circulation et on a enlevé les points de contrôle. Ce qui fait que quand les gens sont arrivés en grand nombre, ils sont rentrés sans papier. Et parmi les sans papier, mais sans aucun contrôle. Et parmi les gens non contrôlés, il y a évidemment des gens qui viennent aussi faire du terrorisme. Et ce qui nous menace demain, c'est que si on contrôle un peu plus sur la Grèce, le flux migratoire il va se déplacer automatiquement vers la Libye, dont 300 km de côte sont déjà détenus par Daesh. Donc vous risquez d'avoir un flux migratoire contrôlé par l'État islamique en direction de l'Europe. Et là, on change d'échelle dans le risque. Donc vous avez non seulement un problème d'afflux qui sature totalement les capacités d'accueil. En France, on ne sait plus accueillir qui que ce soit. La raison pour laquelle on ne prend que 30 000 personnes en France dans les flux, j'allais dire, allemands de l'année dernière, c'est qu'on en reçoit 300 000 par an de toute façon, Syrie ou pas Syrie. L'année dernière, il y a eu 212 000 entrées légales, 80 000 demandes d'asile. Et ça fait 30 ans que ça dure, 40 ans que ça dure, puisqu'on a commencé en 76. Donc les capacités d'accueil, d'emploi, de logement des nouveaux venus en France sont très, très difficiles. C'est vrai dans beaucoup de pays. C'est pour ça que les frontières, les unes après les autres, se referment et que Mme Merkel, qui a déclenché ce grand mouvement par sa générosité personnelle après l'affaire du petit Elan le 4 septembre dernier, a déclenché des forces qu'elle ne maîtrise plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes à la main de M. Erdogan, qui lui a parfaitement compris que cette affaire lui donnait un levier de pression considérable sur l'Europe et que non seulement il va faire payer cette pression financièrement, mais surtout il va la faire payer politiquement, alors, par les visas.
Puis-je intervenir
et par, le, voilà, et par le, la réactivation de l'adhésion. Mais l'affaire la plus dure, vous verrez dans les semaines qui viennent, au-delà de la question des migrants, ça va être l'ouverture des visas.
Bien entendu, près de 80 millions de Turcs. On va en parler, Pierre Lelouch. Gülgü Ertuğrul, la Turquie demande aujourd'hui l'aide financière de l'Union européenne. Est-ce que c'est une demande sérieuse ?
Avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser un fait. Ouvrir ou former des postes frontières à l'extérieur de l'Union européenne est une chose très dangereuse.
Lorsque vous regardez... Aux
frontières extérieures de l'Union européenne est chose très dangereuse. Dangereuse pour les pays qui vivent à l'extérieur de vos frontières. Qui est dangereuse pour la Turquie. Parce que la Turquie peut s'accommoder peut-être avec 3 millions, mais pas avec plus des migrants ou d'émigrés ou de réfugiés. Je ne sais pas quel nom les utiliser. Ce levier dont parle M. Lelouch est comme une lame à double tranche. Et cette tranche, cette lame peut nous couper, nous, et vous couper, vous aussi, d'une autre façon. Pensez à ce qui se passera si tous ces gens-là s'accumulaient en Turquie. Et vous essayerez de trouver une sortie. Donc nous ouvririons nos frontières et on les laisserait passer, ou bien on prendrait des bateaux et on vous les passerait. Je ne sais pas, je ne crois pas que ces postes frontières à l'extérieur peuvent résoudre le problème. Le problème pourrait être résolu si on résout les problèmes internes qui poussent ces gens à quitter leur pays. Donc, ce sont des problèmes économiques, ce sont des problèmes sociaux, ce sont des problèmes politiques qu'il faut résoudre ensemble. Le monde nous appartient à nous tous. Nous ne pouvons pas nous mettre en dehors de ce monde et exclure avoir une Europe en forme de forteresse qui essaierait de rédiger ses propres...
C'est tout sauf une forteresse, madame. Il y a au moins 30 millions de musulmans en Europe avant la dernière vague migratoire. On rentre comme on veut, c'est une passoire, l'Europe. On a quand même, permettez-moi de vous dire, un État souverain, le propre d'un État souverain, c'est de pouvoir savoir qui a le droit de rentrer ou pas dans son territoire. Et ceci vaut aussi pour la Turquie. La Turquie aussi contrôle ses frontières. Non, la question, c'est de savoir si nous avons un devoir d'assistance aux personnes qui sortent de la guerre. Ça, c'est dans toutes les conventions internationales.
Non, mais c'est une question humanitaire, n'est-ce pas ?
Ça, c'est dans le droit humanitaire international. Puis vous avez une autre question qui est, est-ce que n'importe qui venant d'importe où rêvant d'un meilleur avenir est bienvenu en Europe ? S'il signale, c'est que c'est ouvert. Vous aurez beaucoup, beaucoup de millions de gens. Moi, je dis que nous ne pouvons pas accueillir des migrants économiques.
N'accueillez pas, mais ce ne sera pas les postes
et que le système est absolument saturé.
Autre chose.
Alors, est-ce que 3 milliards ou 6 milliards, c'est fait Ingersoll, peuvent résoudre le problème ?
Vous donnez beaucoup trop d'importance à ces 6 milliards. Une fois de plus, je dois répéter que ce n'est qu'un complément secondaire. Monsieur Lelouch a dit faire payer politiquement. Je crois qu'il faut plutôt se concentrer sur cet aspect-là. Les 6 milliards, ce n'est pas beaucoup de choses. C'est tout simplement pour... pouvoir retenir les Syriens pour les empêcher d'émigrer en Europe. Il faut évidemment les soutenir, dépenser de l'argent pour eux, les écoles, les logements, etc. Et les 6 milliards finalement seront dépensés pour ces choses-là. Ce qui est important, faire payer politiquement, il faut voir que l'objectif de l'Europe est très clair dans cette affaire. L'Europe veut que ce flux d'émigrés à travers la mer d'Égée s'arrête. Et pour ce faire, il a essayé, Mme Merkel surtout. A priori, Mme Merkel et le Premier ministre turc Davutoğlu se sont entendus sur un plan, sur un principe plutôt. Il faut que la Grèce puisse renvoyer les réfugiés syriens à la Turquie et la Turquie les accepte. Bon, il y a là les complications juridiques, etc., mais ça, ils sont surmontables. Au fond, si vous y réfléchissez bien, si vous arrivez à décourager par ce moyen, donc le Syrien va savoir non seulement il court un danger en traversant avec des bateaux de fortune la mer d'Égée, mais en plus quand il va débarquer sain et sauf en Grèce, grande chance qu'il soit renvoyé. Et à ce moment-là, vous découragez, donc le flux diminue radicalement, et plus le flux diminue, et plus ce que l'Europe a accepté des camps par la voie légale va diminuer aussi, en proportion. C'est le principe 1 à 1. Donc, finalement, l'Europe joue bien son plan. Si la Turquie fait effectivement cet effort, il y aura l'arrêt de flux syriens à l'Europe. Mais en contrepartie, la Turquie demande quelque chose de très important.
Alors, qu'est-ce qu'elle demande de si important?
Les 6 milliards, ça n'a pas d'importance. Monsieur Lelouch l'a souligné, faire payer politiquement, c'est la visa. Parce que le gouvernement AKP prépare, en fait, ils sont complètement focalisés sur la constitution présidentielle. Une nouvelle constitution qui va intégrer un régime présidentiel, comme nous appelons ici, à la Turca. C'est-à-dire, en fait, un semi-autoritarisme, un régime nouveau qui va donner beaucoup de prérogatives au président, beaucoup de pression sur la justice, etc. Et sur le Parlement aussi, avec des décrets-lois. Ils sont en train de préparer ça. Mais ils ont besoin d'une majorité référendaire au Parlement, les 330 sièges. S'ils les trouvent, il leur manque pour le moment 15-16 députés, mais ils ont des moyens de le trouver par des moyens, même des élections partielles, c'est possible, parce qu'ils sont prêts à renvoyer les députés kurdes de HDP du Parlement. Donc à ce moment-là, ça peut provoquer des élections partielles, légales, et à ce moment-là, AKP peut obtenir cette majorité. Et au référendum, ils ont besoin d'une majorité. Et le cas de la levée du visa, c'est beaucoup plus important que l'ouverture des chapitres. Ça, c'est aussi important de montrer, de donner le signal aux investisseurs étrangers que, voilà, les négociations sont bien, se déroulent bien, etc. Mais ce qui est important, ce qui va toucher les électeurs turcs, le peuple turc, c'est la levée du visa. Je ne discute pas si nous avons droit à ça ou pas, etc. Mais le fait que M. Davutoğlu a exigé de ses partenaires européens que cette levée, à condition de remplir les différents prérogatives, que cette levée du visa soit avancée en juin, ça fait partie du plan de référendum du régime AKP. Ça, ce côté ne se discute pas beaucoup. Alors, les 6 milliards, franchement, ça n'a rien d'important dans ce vrai enjeu poursuivi par le régime AKP.
Pierre Lelouch, les Européens sont conscients que octroyer des visas aux Turcs, ça va faire le jeu d'une présidentialisation du régime turc.
Hein. Ils sont prêts à tout pour avoir un deal. Vous avez vu. Les communiqués du Conseil ne sont pas très glorieux sur la liberté de la presse, l'internement des professeurs, d'avocats. Tout a été avalé jusqu'à présent dans l'urgence de trouver un accord. Sur l'histoire des visas, c'est plus compliqué, parce que là, vous risquez d'avoir quand même une réaction populaire assez compliquée. La Turquie, aujourd'hui, c'est le pays le plus peuplé d'Europe avec l'Allemagne. 80 millions d'habitants, ça va réveiller tous les fantasmes possibles. Vous avez vu l'embarras du président Hollande qui explique que les 72 critères pour la levée des visas sont tous respectés. Il va y avoir un débat plus compliqué que ça en a l'air sur cette affaire. Je suis pas du tout sûr que ce soit aussi simple que ça. De même, ce que disait Monsieur Gürsel sur le signal envoyé aux migrants qui va faire baisser le nombre de migrants, en partie ça va être vrai. Je pense qu'on va peut-être avoir un ralentissement. Si ça entre en œuvre tout de suite au printemps, or ce sera pas prêt, parce qu'il y a beaucoup de questions juridiques qui se posent. Je suis sceptique sur tout ça. Je serais surpris qu'on arrive à mettre en place tous les éléments, y compris le changement des lois turques qui sont nécessaires, parce que quand vous reprenez un illégal qui arrive de Grèce, que vous avez laissé partir en Grèce en fait, hein, qui revient chez vous, il faut bien qu'il ait un statut. pour qu'ensuite vous puissiez le conserver et le remettre dans le camp, dans un camp, à la place de quelqu'un d'autre que vous allez mettre dans un avion. C'est ça l'idée. Mais ça, ça demande de modifier la loi turque, ça demande que du côté européen, on clarifie la compatibilité de tout ça avec les conventions internationales.
Et le droit communautaire.
Et le droit communautaire. Il y a des pays qui, de toute façon, ne voudront pas entendre parler d'accueillir des gens et qui ont déjà dit qu'ils n'en prendraient pas. Et sur les visas, on risque une levée de bouclier chez beaucoup de pays, dont probablement la France aussi, d'ailleurs.
Nedim Gürsel, qu'est-ce que vous pensez alors de cette nouvelle relation Union européenne-Turquie ?
Mais écoutez, certes, M. Erdogan a maintenant une carte à jouer sur le dos des réfugiés, donc sur le malheur des gens. C'est pour cela que ce matin, j'ai dit que la Méditerranée était transformée en cimetière d'enfants noyés. Maintenant, il faut nuancer un peu et ne pas toujours dire, comme Monsieur Lelouch vient de le faire, que l'Europe se tait sur le reste, c'est-à-dire sur les valeurs qui sont quand même fondamentales. Il y a une déclaration du président français, Monsieur Hollande, là-dessus. Le premier ministre italien a beaucoup parlé aussi de la liberté d'expression concernant la Turquie et du cas des journalistes Can Dündar et Gül qui viennent de retrouver leur liberté mais qui ont été inculpés. Le procès continue. Il y a le cas des académiciens. Certes, c'est gênant parce que l'Europe essaie de trouver une solution à un problème réel. Mais le silence n'est peut-être pas total.
Heureusement. Non, il n'est pas total, mais si vous regardez, encore une fois,
les
communiqués des sommets et autres, on est pour le moins... disons que ces sujets ne sont guère évoqués.
Alors, un mot encore. Moi, je suis un fervent partisan de l'adhésion de mon pays à l'Union européenne, mais mon pays s'en éloigne progressivement, et c'est pour cela que j'ai cité Pierre Loti, qui a aussi séjourné ici, sur les rives du Bosphore, et qui disait, en quittant sa ville bien-aimée, Istanbul, que c'est Istanbul, c'est la Turquie qui s'éloigne, alors que c'est le bateau. C'est son bateau, finalement, qui s'éloigne. Je trouve que c'est une belle métaphore qui nous introduit de plein pied, donc, dans ce débat. Alors, qui est fautif, qui ne l'est pas?
Puis-je, j'aimerais premièrement rajouter quelques phrases à ce que le professeur Gürsel nous a dit. C'est que si l'Europe veut vraiment mettre fin à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, la chose qu'elle fera, ce sera de donner le visa. Parce que s'il y a un changement de régime en Turquie, si nous avons un régime présidentiel qui s'instaure, et la Turquie s'éloignera de plus en plus des droits fondamentaux qui sont au cœur de l'Union européenne. Donc, je crains le pire. Et c'est une des raisons pour laquelle je trouve ce marchandage qui est en train d'être fait très dangereux pour la Turquie. Je crois, pour répondre à M. Lelouch, qu'il est très facile pour la Turquie de passer les lois. Mais ce qui est important, c'est leur application. Est-ce qu'elles seront appliquées mot à mot ? Donc, vous verrez que les lois seront passées, que nous serons prêts en début mai pour qu'il y ait une libéralisation de ces visas, et que même l'article 72, qui est un article fondamental, qui rendrait vraiment la Turquie démocratique si elle était appliquée mot par mot. Je finis avec une tonalité qui est assez pessimiste. J'essaie d'être optimiste, j'essaie d'avoir une vision futuristique qui nous permettrait de voir la vie en rose, mais malheureusement, en ces jours-ci, j'en suis bien loin. Surtout lorsque je vois ce qui se passe dans l'Union européenne, surtout lorsque je vois ce qui se passe en Turquie. Merci.
Recep Tayyip Erdogan a dit il y a très très longtemps, il était jeune encore en 96, que la démocratie c'est comme un autobus, qu'on peut monter dedans et descendre quand on en a envie. Vous avez peur que ce soit un peu le moment où, où il risque de descendre de l'autobus, hein ?
Oui, nous sommes en train de façonner une Turquie qui est beaucoup plus traditionnelle qu'elle ne l'était avant. Je ne crois pas qu'il serait possible de descendre du bus totalement. Donc il descendra pour remonter, redescendra et remonter. C'est une aventure sans fin, je crois. Si cet accord est fait, et si cela permettra un changement du régime politique en Turquie, la Turquie s'éloignera de plus en plus de l'Union européenne. Elle deviendra plus autoritaire qu'elle ne l'était auparavant.
Est-ce que ça veut dire que la Turquie et l'Union européenne n'ont pas un destin commun ? Pourtant, on y croyait, on y a cru ici, des deux côtés du Bosphore.
C'est-à-dire qu'il y a une duplicité des relations entre la Turquie et l'Union européenne. L'Union européenne est intéressée dans la Turquie par ce qu'elle a à donner au sens économique du terme. Donc, lorsque vous voyez les chapitres qui ont été ouverts, que l'on veut encore ouvrir, tous sont reliés à des questions économiques. Et donc, nous continuerons à avoir des liens économiques et sociaux assez importants avec l'Union européenne, mais nous n'adhérons jamais à l'Union européenne si le système politique en Turquie change dans les jours à venir.
Moi, je voudrais quand même dire, avant la fin de cette émission, pour avoir beaucoup, beaucoup travaillé au fil des années sur cette affaire des relations entre la Turquie et l'Europe, j'ai même enseigné ici même à Galatasaray, j'ai été désigné comme... représentant de la France, du président de la République, pour essayer de rabibocher les choses. Mais j'étais à l'Europe, tout ça. Je vais vous donner ma conviction. Ma conviction profonde, c'est que Erdogan joue avec l'Europe, n'a aucune intention de rentrer. Par contre, se sert de l'Europe. Il s'est servi de l'Europe, par exemple, pour se débarrasser de l'armée turque. Au nom des bons sentiments européens, avec les applaudissements.
C'est pas une mauvaise chose.
Non, non.
L'armée n'est plus présente sur la scène politique.
Ok, mais
je suis tout à fait d'accord avec vous.
En même temps, l'armée, c'était en l'absence de partis d'opposition crédibles.
Que dans l'esprit d'Erdogan, il n'y a pas une vision démocratique à l'européenne.
Non, mais attendez. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est que Erdogan s'est servi de l'Europe, c'est de l'armée qui était la seule opposition solide en l'absence de partis d'opposition sérieux dans ce pays. Il se sert aussi aujourd'hui de l'Europe pour gagner sa future réforme constitutionnelle et faire un coup sur les visas et d'autres choses de ce genre. Mais fondamentalement, il n'a aucune envie de se plier aux disciplines de l'Europe, ni... sur le plan des disciplines démocratiques de base qui sont dans les textes européens, ni même sur le fonctionnement de son économie. Les groupes turcs sont libres. Il n'y a pas de loi anti-dumping, anti-concurrence, de loi invasive sur l'environnement. Tout ça ne s'applique pas en Turquie. Donc ils ont une économie dynamique aussi parce qu'ils sont hors système, hors normes lourdes européennes. Bon. Et quant aux Européens, on retrouve la même hypocrisie. Les Turcs sont candidats depuis 1963. Ça fait un demi-siècle qu'on fait semblant et on leur a donné un statut de candidat en 2005. Et bon, et maintenant ils sont soi-disant candidats, on se bat sur les chapitres qu'on ouvre ou qu'on n'ouvre pas. Voilà un pays qui occupe un autre pays membre, Chypre, qui n'a aucune intention de retirer ses troupes.
Non, mais il faut pas rentrer dans tous ces détails. Non, mais ça, nous n'avons que deux minutes.
Non, mais
vous semblez accaparer toute la conversation en donnant vos idées politiques qui sont guidées par les idées de votre parti politique.
Pas du tout. Je vous donne ma position.
Non,
qui
c'est
je crois.
Pas votre position. C'est une position qui est anti-turque, bien sûr.
Mais non.
Parce que l'Europe, en fait, en réalité,
Madame,
ne veut
pas,
pas
du tout anti-turque. Le fond, je termine. Je redonne la parole. Je termine.
Avez-vous la dernière parole ?
Je termine ma phrase.
Vous allez avoir la.
C'est un jeu d'hypocrisie. C'est tout ce que je dis, c'est que
mutuelle.
Je crois qu'il serait bon un jour d'en finir avec cette hypocrisie. Voilà, c'est tout.
Non, c'est ça. Il faut en finir avec la duplicité de ces relations.
Mais peut-être que l'AKP et l'Europe ne sont pas compatibles. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a aussi dans ce pays des forces démocratiques. Peut-être demain, nous aurons un autre gouvernement qui va réussir à faire les réformes nécessaires. Et parce que sans cette perspective européenne, Monsieur Lelouch, la Turquie va encore régresser, notamment en ce qui concerne la démocratie. Donc cette perspective européenne, même si elle est virtuelle, n'est pas une mauvaise chose pour la démocratie en Turquie.
Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Moi, je la défends, cette perspective. Contrairement à ce qu'on grand madame, je suis pas un adversaire de cela. Simplement, je voudrais qu'on sorte de cette hypocrisie et qu'on se dise les choses.
Oui.
Et or, on fait semblant. Les Turcs font semblant de vouloir rentrer en Europe. En tout cas, le gouvernement actuel veut pas. Et les Européens font semblant que la Turquie est candidat sans avoir la moindre intention de la laisser entrer. On multiplie partout les verrous, les référendums dans tous les sens. Et comme ça, on reste dans le statu quo. Mais c'est ce statu quo qui est mortel pour cette relation et qui permet effectivement des dérives.
Oui, nous sommes d'accord.
Très bien, merci à tous les quatre, merci à vous de nous écouter. Vous pouvez réécouter cette émission ou trouver plus d'informations sur nos invités sur RFI.fr ou via les applications mobiles et les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de Carrefour de l'Europe. Une émission de Béatrice Leveillé réalisée à Istanbul par Richard Rifono avec l'Institut du Bosphore. Rendez-vous la semaine prochaine.